bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Shalom Côte d'Azur, 89.3 MHz sur la modulation de fréquence. Avant même de démarrer cette émission, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fête de Toubishvat. À présent, dans le cadre de cette émission Pause littéraire, trois invités. Nous parlerons de Kabbale avec André Benzimra, qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Exploration du temple maçonnique à la lumière de la Kabbale » paru aux éditions d'Hervy. En deuxième partie, Jean-Jacques Barraud qui nous parlera de Freud et de la métaphore ferroviaire paru aux éditions In Press. En troisième partie, nous recevrons Bruno Dré qui nous présente son livre « Les trésors étymologiques de la Bible » paru aux éditions Bibliophane Daniel Radford. Une information littéraire en provenance de la FNAC de Nice. C'est une rencontre avec Robert Charvin qui a lieu le jeudi 24 janvier à 17h30. C'est autour de son dernier ouvrage « Droit de la protection sociale » paru aux éditions L'Harmattan. Alors si cette rencontre vous intéresse, c'est le jeudi 24 janvier 17h30 à la FNAC de Nice au 44 avenue Jean Médecin au niveau 3. Et si vous voulez, et si vous désirez vous tenir au courant des principales manifestations des FNAC azuréennes et même françaises, www.fnac.com. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez également écouter Radio Shalom Côte d'Azur sur www.radioshalomnitsan.com. Voilà pour les quelques informations que je devais vous communiquer. Sans plus attendre, nous retrouvons André Benzimra.
André Benzimra, vous êtes professeur de philosophie, je précise à la retraite. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le thème de la Kabbale et de la franc-maçonnerie. Et là, vous venez de sortir un nouvel ouvrage qui s'intitule « Exploration du temple maçonnique à la lumière de la Kabbale ». C'est un livre qui est paru aux éditions d'Hervy. Alors, tout d'abord, André Benzimra, comment la franc-maçonnerie a pu intégrer justement la symbolique des symboles de la Kabbale dans sa symbolique qui lui est propre?
Alors, je dois vous dire, par exemple, que tout au long des 33 degrés du rite écossais ancien accepté, les mots sacrés sont tous des noms divins hébraïques, hein? Donc, et nous sommes, puisqu'il s'agit d'une organisation initiatique, nous sommes invités à les interpréter non pas dans un sens exotérique, mais dans un sens initiatique. Et par conséquent, tout naturellement, nous sommes orientés vers les grands ouvrages de la Kabbale, c'est-à-dire le Sefer Yetzirah, c'est-à-dire le livre de la création ou de la formation, selon le titre qu'on veut bien donner, ou bien encore le Sefer Abahir, c'est-à-dire le livre de la clarté, et enfin, bien sûr, le plus important de tous, le Sefer HaZohar. Donc, vous voyez, la franc-maçonnerie, c'est un creuset où se retrouvent toutes sortes de traditions, et par conséquent, chacun peut explorer la franc-maçonnerie ou comprendre la franc-maçonnerie en s'appuyant l'un sur l'hermétisme, l'autre sur le christianisme, le troisième sur la Kabbale, et par conséquent, donc, effectivement, les études kabbalistiques sont encouragées par mon ordre.
Alors, André Benzimra, comment vous avez été amené, donc j'expliquais en début d'interview que vous êtes quand même juif croyant, que vous êtes plus ou moins pratiquant, comment vous avez été amené à rentrer dans la franc-maçonnerie?
Eh bien parce que, j'avais un cousin hein, qui était, j'ai peut-être pas le droit de prononcer son nom, j'avais un cousin qui était franc-maçon, dont le père était très pieux, lui-même était très pieux, et il a été appelé à faire partie d'une yeshiva kabbaliste en Israël. Et du coup, par conséquent, ça m'avait tellement marqué qu'il soit à la fois franc-maçon et kabbaliste, que j'ai voulu me pencher sur l'un et l'autre, quoi. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé en franc-maçonnerie. Et là, je me suis aperçu, si vous voulez, que, il y a l'aigle très importante de la Kabbale en franc-maçonnerie. Si vous voulez, je peux vous en donner quelques exemples.
Oui,
moins, pour pas être trop long. Moins, par exemple, vous voyez, il y a un précepte très important en franc-maçonnerie, capital même, et qui se dit... Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Alors souvent on considère la pierre cachée comme la pierre philosophale des alchimistes. Mais les anciens devoirs maçonniques cite un psaume de David où il est question d'une non tout autre pierre cachée, qui est la chétilla. La chétilla, c'est la première pierre qui a été déposée lors de la création du monde. Cette pierre, bien entendu, a été par la suite décédée, et elle a fait l'objet de toute une recherche, de toute une quête, n'est-ce pas? Elle est passée à différents endroits. Par exemple, Jacob l'a utilisée comme chevet au moment de son songe célèbre. David l'a retrouvée, l'a recueillie, l'a mis de côté, et Salomon l'a placée dans le temple. Alors les uns disent sous le temple, les autres disent dans le temple, etc., etc. Et il y a eu toute une série de tribulations successives. Et cette chétilla, elle joue un rôle très très important en franc-maçonnerie, puisqu'elle est considérée comme la pierre de fondement. Et d'ailleurs, quand on construit un édifice, on commence généralement par déposer une pierre au nord-est, c'est la première pierre de l'édifice, et c'est là qu'on installe l'apprenti franc-maçon qui vient d'être initié. Et cette première pierre est identifiée à la chétilla, parce que le temple maçonnique est considéré comme un cosmos en miniature, comme un monde en miniature. Et par conséquent, il y a l'équivalent de la chétilla dans le temple maçonnique en la personne de cette pierre qui s'appelle l'apprenti nouveau-né. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, monsieur.
Oui, enfin, si je comprends bien, le temple maçonnique, la franc-maçonnerie en tout cas, a récupéré certains symboles de la Kabbale, et elle les a intégrés dans sa propre symbolique.
Oui, bien entendu. D'ailleurs, le temple maçonnique, c'est tout simplement le temple de Salomon. C'est la représentation du temple de Salomon. Et les francs-maçons sont appelés à reconstruire le temple de Salomon.
En général, les francs-maçons, est-ce que ce sont des personnes croyantes?
Ça dépend. Il y a vraiment toutes les philosophies, il y a vraiment toutes les religions. Vous trouvez de tout en franc-maçonnerie. Il y a deux grands courants en franc-maçonnerie. Une franc-maçonnerie que je serais tenté d'appeler symbolique et mystique. Et il y a une franc-maçonnerie qui est, disons, issue des Lumières, de la Scala, comme on dit.
Oui, c'est-à-dire une franc-maçonnerie laïque.
Une franc-maçonnerie laïque, si vous voulez, mais les deux se rejoignent parce que, si vous voulez, les gens qui sont issus des Lumières travaillent à la réconciliation de tous les hommes, à la réunion de tous les hommes dans un seul peuple. Et les autres, c'est pareil, c'est-à-dire les symbolistes et les mystiques, font de même. C'est-à-dire que la franc-maçonnerie a une espèce de but messianique puisqu'elle réunit en son sein, en un seul peuple, des gens qui sont extrêmement différents, qui sont musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, etc. Et de l'autre côté, bien entendu, des progressistes, des gens qui sont issus des Lumières.
André Benzimra, comment on peut définir la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est une religion, une secte, un mouvement de pensée? Comment définir?
Alors, c'est pas une secte déjà parce que, vous êtes libre d'entrer, vous êtes libre de sortir quand vous voulez. Ce n'est pas une secte parce que vous êtes libre d'avoir vos opinions philosophiques, politiques et religieuses, hein, vos confessions, etc. Chacun à la sienne. Son but, c'est un mouvement de pensée qui travaille à la réconciliation entre les hommes, à la fraternité universelle. Ce que nous essayons d'établir, c'est une fraternité universelle. Alors, moi, par exemple, qui suis un intellectuel, j'essaie, dans la mesure de mes moyens, j'essaie de travailler à la réconciliation entre les trois religions du livre. Voilà, c'est-à-dire que j'essaie, si vous voulez, d'établir la paix entre ces trois religions qui ont été et qui continuent encore à certains égards à être si opposées et quelquefois même se sont considérées comme ennemies. Voilà.
André Benzimra, alors je rappelle que vous êtes professeur de philosophie en retraite, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la franc-maçonnerie. Alors votre dernier livre s'intitule Exploration du temple maçonnique à la lumière de la Kabbale. Il est paru aux éditions Derby dans la collection Pierre Vivante. André Benzimra, je vous remercie.
ציפורים מראש כל גג מבשרות את בוא החג, Tumishvat higia chaga ilano. Tumishvat higia chaga ilano. Hashkedia porachat veshemesh pazorachat. Tzipori merosh kol gad mevasrot et kol echad. Tumishvat higia chaga ilano. Tumishvat higia chaga ilano.
Toujours à l'écoute de Radio Shalom Côte d'Azur, nous sommes dans l'émission Pause littéraire et dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons Jean-Jacques Barrault, psychanalyste, qui nous présente son livre Freud et la métaphore ferroviaire.
Jean-Jacques Barrault, vous êtes psychiatre, psychanalyste, vous êtes membre du 4e groupe organisation psychanalytique de langue française et vous venez de sortir un livre, je précise que c'est votre premier livre, qui s'intitule Freud et la métaphore ferroviaire, qui est paru aux éditions In Press. Alors, Jean-Jacques Barrault, quelle est la place que le train occupe dans la vie de Freud ?
Alors, une place tout à fait fondamentale, puisque, bon, à la fois, Freud est né, donc, en 1856, à l'époque où le train était en plein développement. Donc, à la fois, il a participé à cette révolution industrielle et culturelle extrêmement importante. Et par ailleurs, ça a été un très très lent voyageur et qui souffrait d'une phobie du train. Donc il a réussi à comprendre et à éliminer au cours de ses nombreux voyages. Je me suis intéressé à la question de Freud et du train, d'abord parce que, comme je vous le disais, c'est à la fois la rencontre de deux inventions qui sont pratiquement contemporaines, et parce que la psychanalyse est directement liée, bien sûr, à l'inconscient de Freud et à son auto-analyse, et que toutes les représentations liées au chemin de fer sont très très importantes dans son œuvre.
Alors, Jean-Jacques Barrault, pourquoi cette fascination de Freud concernant le train, une fascination qui va jusqu'à l'angoisse, en tout cas ce que vous décrivez dans votre livre?
Oui. Ben, je crois que c'est à la fois une fascination qu'il partageait avec tous ses contemporains. Ce qui est très frappant, c'est quelque chose qu'on a un peu du mal à s'imaginer aujourd'hui. C'est à quel point le train a transformé la vision du monde au 19e siècle. Surtout à partir de la transformation du paysage liée à la vitesse du déplacement du train. Aujourd'hui, on est effectivement très habitué quand on regarde un paysage défilé, même dans des trains qui roulent maintenant beaucoup plus vite. On n'a pas ce sentiment qu'avaient tous les contemporains de Freud et qu'on retrouve dans toute la littérature du train de la fin du 19e siècle, où on voit que vraiment c'est une véritable transformation de la perception qui s'est manifestée. D'ailleurs, du coup, le train était... Cette transformation a donné lieu à toutes les transformations de la représentation picturale, littéraire, voire même peut-être musicale. Bon, et par ailleurs, donc il y a toute une série de rencontres de Freud avec le train. La première commençant quand il a 3 ans et demi, qui est son premier voyage en train, qu'il arrache à sa ville natale Freiberg, qu'il décrira tout au long de sa vie comme une grande catastrophe, un véritable exil. Et voyage au cours duquel il aura l'occasion par la suite de retrouver des souvenirs infantiles, et au cours duquel en particulier il verra sa mère nue. Et bon, ce dont je fais une des représentations entraînant la naissance de la psychanalyse.
Alors justement, c'est au cours d'un voyage en train en Italie, c'est en 1897, que Freud va repenser les fondements de la théorie psychanalytique. Donc décidément, les trains l'inspiraient.
Oui, ce voyage est particulièrement important. En 1897, il décide de partir en Italie sur une impulsion, à un moment où il était en plein doute concernant sa théorie. C'est un voyage auquel il fera remonter le début de son auto-analyse. Et effectivement, deux semaines après son retour, il fait part à son ami William Fliss, qui était son correspondant quotidien à l'époque, qu'il a retrouvé à l'occasion de ce voyage en train toute une série de souvenirs d'enfance à travers des rêves et souvenirs d'enfance qui l'ont amené à repenser complètement sa théorie qu'il appelait à l'époque la neurotica, en fait, qui était, jusqu'à présent, il considérait que les troubles psychiques, en particulier des hystériques, étaient liés à des séductions réelles, à des abus sexuels. C'est ce que lui racontaient toutes les hystériques qu'il rencontrait à l'époque, qu'elles avaient été violées ou séduites, plus souvent par un homme de la famille, voire souvent par le père. Et Freud, à l'occasion donc de ce voyage et des rêves et de qui le concerne, prend conscience que du fantasme finalement, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas parfois la réalité d'une scène réellement de séduction ou d'abus sexuel, mais il prend conscience à ce moment-là du fantasme et que les choses pouvaient apparaître dans les rêves ou dans le fantasme et qui ne reposait pas sur une séduction réelle. Donc ça, c'est à l'occasion de ce voyage de 1897. Bon, à la fois parce que le train l'amène à des souvenirs d'enfance, mais je crois également aussi parce qu'il fait une véritable rencontre esthétique, une véritable expérience esthétique avec l'art italien et en particulier, comme je le décris dans mon livre, avec les fresques de Luca Signorelli à Orvieto, où le peintre se met en scène dans son œuvre. Et je pense que c'est une des voies qui lui permet de rencontrer comment le sujet peut se mettre en scène dans son propre fantasme.
Alors, Jean-Jacques Barrault, donc Freud comparait la cure analytique à un voyage. Comment expliquer ça?
Oui, alors ça, c'est tout à fait troublant. Il comparait, oui, la cure analytique, en tout cas, c'est en 1913, dans un article important, puisque c'est le premier, c'est sa contribution au premier numéro de la nouvelle revue officielle de l'Association internationale de psychanalyse. Il contribue à cette revue avec un article qui s'appelle « Le début du traitement » ou « L'engagement du traitement » dans la nouvelle traduction, où il fait part de la règle fondamentale de la psychanalyse, c'est-à-dire la prescription qui est faite au patient de dire tout ce qui lui passe par l'esprit sans aucune restriction. Et pour énoncer cette règle, il utilise donc la métaphore ferroviaire, c'est-à-dire qu'il invite ses patients à décrire tout ce qui se passe à la fenêtre d'un compartiment. C'est assez troublant. En même temps, on s'aperçoit dans l'œuvre de Freud énormément de métaphores de cet ordre et que cette propre métaphore est en lien avec toute une série d'autres métaphores. Bon, pourquoi utilise-t-il cette métaphore? C'est ce que j'essaie de dérouler dans mon livre. Je crois qu'effectivement, donc, c'est lié, encore une fois, à l'importance du train à l'époque, à l'importance personnelle du train pour Freud, et au fait que cette métaphore permet de retrouver toute une série de représentations psychiques importantes chez Freud, parce que finalement, le paysage qui défile, c'est défile comme un livre de voyage. Donc, il y a un souvenir d'enfance de Freud où son père lui avait confié, lorsqu'il avait 5 ans, un livre de voyage en père, dont il avait déchiré les pages, puis bon, il y a d'autres représentations comme effeuiller un artichaut, effeuiller un bouquet de fleurs d'une petite fille de sa nièce, Pauline. Donc ça, c'est des représentations importantes dans l'histoire de Freud, qui finalement viennent se cristalliser dans cette métaphore.
Alors, ce qui est dans ce livre, Jean-Jacques Barrault, vous citez justement une histoire drôle qui a été très prisée par Freud, hein, c'est l'histoire de ce pauvre juif qui s'est glissé sans billet dans l'express de Carlsbad.
Oui.
Vous pouvez nous le raconter peut-être?
Alors oui, c'est une histoire qu'il racontait très souvent à différentes occasions, la plupart du temps liée à son inquiétude de la mort, mais du temps qui passe. C'est un juif pauvre qui est entré sans billet dans un train pour se rendre à Carlsbad et qui se fait contrôler donc une première fois. Il est, donc son billet, il est expulsé du train, il y remonte, il est contrôlé une deuxième fois, il est expulsé de nouveau, enfin, une troisième fois, et ainsi de suite. Et puis, il rencontre sur le quai, au moment d'une de ses expulsions, un ami qui lui dit « Mais où tu vas ?» Et il lui répond « À Carlsbad, si ma constitution le supporte. » C'est donc une histoire que Freud racontait très souvent, sa constitution le supporte, enfin c'est bon, la question du temps qui passe, la question de la mort, mais en l'occurrence, c'est aussi... ça peut aussi rapprocher au travail analytique.
Alors, avant de conclure, Jean-Jacques Barrault, est-ce qu'on peut dire que l'art de voyager, c'est aussi l'art de psychanalyser au regard de Freud ?
Alors, c'est ce que j'essaye de démontrer dans mon livre. Cette expression, l'art de voyager, il écrivait à sa fiancée à l'époque, qui est devenue sa femme, Martha, en 1886, à son retour de Paris, où il était allé étudier chez Charcot. Il écrivait à sa fiancée que nous pratiquerions ensemble cet art de voyager que j'ai acquis durant ces 7 derniers mois. Les 7 derniers mois, c'est donc les 7 mois qui venaient de passer chez Charcot. Il dit, il continue la lettre en disant qu'il va ouvrir son cabinet, parce que bon, pour pouvoir se marier, il fallait qu'il reste très longtemps fiancé, parce que pour des raisons financières, il avait besoin d'argent, et donc il décide enfin de s'installer, de pratiquer l'art de psychanalyse, l'art de voyager, qui en fait, ce qu'il pratiquera toute sa vie, c'est-à-dire la psychanalyse, en écoutant ses patients comme assis dans un compartiment de chemin de fer, comme il l'exprime dans sa métaphore.
Jean-Jacques Barrault, je rappelle que vous êtes psychiatre, psychanalyste, et vous êtes l'auteur d'un livre, c'est votre premier livre d'ailleurs, qui s'intitule « Freud et la métaphore ferroviaire », qui est paru aux éditions In Presse. Je vous remercie.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Shalom Côte d'Azur. Je vous propose de retrouver Bruno Audrey, qui nous présente son livre « Les trésors étymologiques de la Bible ». Bruno Audrey, vous êtes linguiste autodidacte. Vous venez de publier un livre qui s'intitule « Les trésors étymologiques de la Bible », un livre qui est paru aux éditions bibliophane Daniel Radford. Alors, dans ce livre, vous établissez des comparaisons étymologiques et consonantiques entre l'hébreu et 7 langues contemporaines. Alors, Bruno Audrey, à quelle conclusion vous arrivez ?
Eh bien, cet ouvrage démontre la portée millénaire et universelle de la langue hébraïque dans l'univers linguistique contemporain, et notamment dans le monde occidental.
Alors, Bruno Audrey, donc ce livre, les trésors étymologiques de la Bible, comment vous en êtes arrivé justement à établir ces comparaisons entre l'hébreu et les différentes langues citées? Il y en a 7 en tout.
Eh bien, c'est par le biais de recherches personnelles pendant plusieurs années. C'est au cours de l'élaboration d'une méthode hébraïque que je me suis rendu compte qu'il existait des connexions possibles entre des termes bibliques, hébraïques, et des mots européens, français, anglais, allemand, espagnol, italien, russe, allemand et arabe, parlés aujourd'hui.
Bruno Audrey, est-ce que vous pourriez donner un exemple un petit peu pour illustrer cette recherche ?
Oui, le mot... J'ai établi une correspondance lexicale entre le terme hébraïque kever, qui signifie couverture, qui signifie tombe, pardon, et le mot justement couverture, puisque une couverture servait à l'époque biblique, eh bien, à recouvrir le corps d'un individu défunt.
Bruno Audrey, alors est-ce qu'on peut dire finalement que toutes les langues sont issues de la langue hébraïque, ou c'est un abus ?
Alors je ne peux pas dire ça. Je dis simplement que, du point de vue, en raison du parcours du peuple d'Israël, du fait de sa dispersion, et également du fait que la religion juive a été la première croyance monothéiste, eh bien, en Occident, beaucoup d'intellectuels, d'ecclésiastiques, d'hommes de foi, donc, se sont inspirés de l'hébreu tout au long du Moyen-Âge et de la Renaissance afin de créer des mots nouveaux dans leur propre lexique.
Bruno Drey, quand on traduit la Bible en hébreu, est-ce qu'on a accès de la même manière au texte ou est-ce qu'il y a un appauvrissement du texte ?
Non, je pense plutôt qu'il y a un approfondissement du texte.
Le fait, par exemple, si la Bible est en hébreu, si on la traduit par exemple en français, en russe ou dans une autre langue, il y a un approfondissement ou un appauvrissement ?
Je ne pense pas que le terme appauvrissement soit idéal pour ce genre de comparaison. Je pense simplement que plus l'étude d'une langue est approfondie et plus l'étude est intéressante.
Alors, Bruno Drey, d'où vient cette passion pour la langue hébraïque au point d'avoir fait cette étude ?
Eh bien, lorsque j'étais étudiant, j'ai étudié l'hébreu par moi-même, par correspondance, et je me suis rendu compte que j'étais assez doué pour apprendre un idiome en autonomie. Et c'est ainsi que par la suite, eh bien, j'ai décidé d'entreprendre l'étude d'autres langues, notamment les langues européennes comme l'italien, l'espagnol, l'allemand et le russe.
Est-ce qu'une des langues les plus proches de l'hébreu, est-ce que c'est l'arabe ?
Oui, du fait que ce sont des langues dites sémitiques, appartenant donc à une même catégorie d'idiomes, contrairement aux langues indo-européennes, comme le français, l'anglais, etc., parler en Occident.
Bruno Drey, alors finalement, comment vous êtes amené un petit peu à cette étude concernant les trésors étymologiques de la Bible ? Comment vous avez été amené ?
Eh bien, par le biais de recherches personnelles et d'une véritable passion qui m'a conduit à rechercher des étymologies communes entre les mots de la Bible et des termes parlés aujourd'hui sur le continent européen.
Est-ce que c'est une première ou est-ce qu'il y a des essais qui avaient déjà été faits dans ce sens ?
Alors au niveau d'autant de langues, non, c'est une première visiblement entre l'hébreu et cette langue contemporaine, du moins dans le monde francophone. Je sais que aux États-Unis, eh bien, d'autres chercheurs ont entrepris le même travail.
Bruno Drey, alors cette étude, finalement, qu'est-ce qu'elle apporte de neuf dans la connaissance de la Bible, dans la connaissance de la langue hébraïque, voire dans la connaissance des autres langues ?
Eh bien, elle démontre la portée millénaire universelle de la langue hébraïque et, par conséquent, renforce l'itinéraire si particulier de la Bible, qui est le livre le plus lu et le plus vendu au monde.
Bruno Drey, alors je rappelle le titre de votre ouvrage, Les trésors étymologiques de la Bible, qui est paru aux éditions Bibliophane, Daniel Radford. Je vous remercie. Eh bien, nous arrivons au terme de l'émission Pause littéraire. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de Toubichvat. Merci à nos amis Jean et Johan pour avoir assuré la mise en onde de cette émission. Et rendez-vous avec l'aide de Dieu la semaine prochaine. N'oubliez pas donc, restez à l'écoute, Radio Shalom Côte d'Azur, 89.3 MHz sur la modulation de fréquence. Également sur internet www.radioshalomnitsan.com. Excellente semaine à l'écoute de nos programmes. Très bonne fête de Toubichvat, et avec l'aide de Dieu, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Shalom à tous.